Je vais vous présenter tout de suite notre intervenant du jour. Il s'agit de Roland Douce, qui est né en 1939, près de Paris. Il est professeur à l'université Joseph Fourier à Grenoble et il est spécialiste du métabolisme des plantes supérieures. Il a publié amplement dans des publications scientifiques, dans des revues de grande diffusion internationale. Il est membre de l'Académie des sciences, membre de l'Institut universitaire de France, de la National Academy of Sciences à Washington, et comme je l'ai dit, spécialiste du métabolisme des plantes supérieures. Il va nous parler aujourd'hui de la feuille des plantes supérieures, fonction, réponse aux agressions et sensibilité aux herbicides.
Je remercie vivement M. le professeur Michaud pour cette introduction sympathique. Effectivement, je vais vous parler de ce capteur solaire qui est la feuille. Et j'espère que je vais vous transmettre ma passion pour cet organe fascinant. Alors, les plantes, comme les animaux, comme vous le savez, empruntent au milieu dans lequel ils vivent des molécules très diverses pour croître et se multiplier, et en particulier pour synthétiser leur propre matière vivante, leurs protéines, leurs acides nucléiques et leurs lipides. Mais il y a une différence fondamentale, extrêmement profonde, entre les plantes d'une part et les animaux d'autre part. Les animaux peuvent se déplacer et vont emprunter des molécules très sophistiquées, complexes, préfabriquées par les plantes. Parmi ces molécules, on trouve le saccharose, le sucre que vous mettez dans votre café le matin. On trouve tous les acides aminés essentiels, la valine, la leucine, l'isoleucine, le tryptophane, la méthionine, la tyrosine, etc. Les animaux sont incapables de synthétiser ces acides aminés, donc ils l'empruntent à l'environnement, à leur alimentation, si vous voulez. On rencontre les acides gras polyinsaturés, les acides linoléiques, linoléniques, etc. Et enfin, les vitamines, la thiamine, la biotine, le folate, etc., qui sont des outils des protéines. Donc, voyez-vous, les animaux empruntent des molécules déjà extrêmement complexes que les plantes synthétisent en permanence. En revanche, les plantes, elles, ne peuvent pas se déplacer. Elles vont donc emprunter à l'environnement des molécules très simples. Ce sont des molécules inorganiques, et c'est à partir de ces molécules qu'elles vont échafauder toute leur matière vivante. Et les molécules qu'elles empruntent, c'est tout d'abord le gaz carbonique de l'air, qui est présent dans l'air ambiant d'une façon ad libitum, et vous verrez qu'à partir de ce gaz carbonique, elle réalise ce tour de force de synthétiser la molécule de saccharose, au risque de me répéter, le sucre que vous utilisez dans vos pâtisseries ou pour sucrer le café chaque matin. Mais elles vont également emprunter au sol l'anion sulfate, phosphate, les nitrates. Elles vont également emprunter l'eau venant du sol et tous les sels métalliques, le cuivre, le fer, le zinc, etc. Donc, voyez-vous, il y a une grande différence entre les deux règnes à ce niveau-là. Au risque de me répéter, les plantes ne peuvent pas se déplacer, donc elles empruntent des molécules beaucoup plus simples, des molécules minérales. On dit qu'elles sont autotrophes de ce point de vue. Alors, ce qui est intéressant chez le végétal, c'est que un seul organe fabrique le saccharose, c'est la feuille. Et ce saccharose va être à la base de toutes les biosynthèses qui se déroulent dans la plante. Prenons le premier cliché, s'il vous plaît. Alors, il s'agit ici d'un jeune plant de tomate où vous repérez les principaux organes de la plante, les racines tout d'abord, qui sélectionnent, je vous l'ai dit à l'instant, les sels minéraux provenant du sol, la tige, les feuilles qui fabriquent le saccharose, les fruits ici, vous avez les fleurs à ce niveau-là. Eh bien, on peut dire que le végétal renferme deux parties distinctes. La première partie, ce sont les feuilles. Ce sont les organes dits « sources » qui vont débiter en permanence à la lumière le saccharose aux autres territoires de la plante. Et puis, vous les avez, les organes puits, qui sont incapables de synthétiser cette molécule et qui reçoivent le saccharose. Ce sont les racines, les fruits, les fleurs, les graines, éventuellement les tubercules, les tiges, etc. Donc, deux types d'organes, organes sources, organes puits. Et à chaque instant, la plante régule avec une finesse exquise la production et la demande en saccharose. Si la demande s'accroît, la production s'accroîtra. Si la demande régresse, la production régressera. Voyez-vous, contrairement à nos sociétés, la plante est capable à la perfection de gérer, sur le plan de la synthèse du saccharose, l'offre et la demande. Sur ce diapositive, j'ai également représenté un organite que nous allons rencontrer tout à l'heure et qui est présent dans tous les territoires de la plante. Cet organite a une forme sphérique, il se trouve donc dans toutes les cellules, mais suivant l'emplacement où on l'observe, il prend des formes extrêmement variées. Le cliché n'est pas très beau, il m'est arrivé un petit problème tout à l'heure, ce cliché n'est pas très beau, mais sachez que dans les feuilles, les plastes, on les appelle les chloroplastes, c'est un véritable capteur solaire. En revanche, dans les racines, le même organite a une forme totalement différente. Il stocke l'amidon, ce sont des amyloplastes. Néanmoins, chacun de ces organites ici renferme la même information génétique. Il est totalement absent du règne animal et il va conférer aux plantes leur autotrophie particulière. Et c'est cet organite, en particulier dans les feuilles, qui joue un rôle clé dans la synthèse du saccharose. Alors, pour comprendre la synthèse du saccharose, il est nécessaire, dans un premier temps, de voir ensemble la structure d'une feuille. Peut-être que vous n'avez jamais eu l'occasion de voir la structure fine d'une feuille. Le cliché suivant, s'il vous plaît. Alors, j'ai réalisé cette coupe pour cette conférence. Elle n'est pas très belle, mais je l'ai fait moi-même, donc j'y tiens beaucoup. Je peux une petite mise au point, s'il vous plaît. Voilà, très bien. Alors, cette feuille, sur une coupe, ce qui frappe, c'est qu'elle est formée de cellules. On les voit ici. Ce sont des cellules chlorophylliennes. Ce sont elles qui vont capter l'énergie lumineuse, pomper le gaz carbonique, l'eau du sol, et fabriquer le saccharose. Vous les voyez, ces cellules. Et ces cellules sont lâchement liées les unes aux autres. Vous voyez, quelques points de contact, mais elles ne dessinent pas un tissu compact. Ce qui fait que dans l'espace, elles ménagent de nombreux espaces, ce que l'on appelle des méas, dans lesquels vont circuler tous les gaz. Le gaz carbonique, l'oxygène, qui est un déchet de la photosynthèse, et la vapeur d'eau. Et vous verrez l'importance tout à l'heure de la vapeur d'eau. Donc retenez des cellules lâchement liées les unes aux autres. Le deuxième territoire intéressant, ce sont les petites nervures qui parcourent la feuille dans ses moindres recoins. Tous les millimètres, vous avez à peu près une très fine nervure. Et ces nervures sont en fait formées de deux parties. La première partie va monter l'eau du sol et les sels minéraux nécessaires au métabolisme de la feuille. Alors, c'est ce qu'on appelle les vaisseaux xyléméens. Ce sont en fait des cellules alignées et armaturées par un polymère qui confère à ces petits tuyaux une résistance exceptionnelle. Et ces tuyauteries très fines dans les feuilles, beaucoup plus grosses dans les tiges, sont ininterrompues des racines au sol, aux feuilles. Il ne faut surtout pas interrompre ces tuyauteries par intercalation, par exemple, de bulles d'air. Mais malheureusement, parfois, ça arrive. Donc l'eau, puisée par les racines, chargée en sels minéraux, monte par ces tuyauteries. Et vous verrez tout à l'heure ce qui entraîne le courant de cette eau vers les feuilles. Et puis, le deuxième type de tuyauterie est beaucoup plus sophistiqué. Il est loin encore d'avoir livré tous les secrets. Il s'agit là de cellules alignées, mais contrairement aux cellules qui montaient l'eau du sol, ce sont cette fois-ci des cellules vivantes. C'est ce que l'on appelle le phloème. Et ces tuyauteries vont descendre le saccharose produit par chacune de ces cellules, et nous verrons comment ce saccharose migre de cellule à cellule pour rejoindre les vaisseaux conducteurs. Ces tuyauteries vont descendre ce que l'on appelle la sève élaborée, dont va se nourrir tous les organes, bien sûr, de la plante non chlorophyllien, incapable de synthétiser le saccharose. Donc retenez deux types de tuyauteries. Enfin, le troisième acteur est également très important. Il s'agit des épidermes. Voilà l'épiderme inférieur de cette feuille, l'épiderme supérieur. Et ces épidermes jouent une double fonction. La première fonction, c'est une fonction de protection. L'épiderme s'oppose à la diffusion passive de l'eau. Pour la raison suivante, c'est qu'il est recouvert d'un film très fin qu'on appelle la cuticule et qui rend cet épiderme étanche à l'eau. Dans les zones désertiques du globe, cette cuticule est bien sûr beaucoup plus épaisse. Sous nos climats, elle est extrêmement fine parce que l'eau n'est pas encore, je dis bien, je pèse tous mes mots, un facteur limitant. Donc c'est la première fonction de l'épiderme et vous verrez qu'il y a aussi une fonction de défense. Mais la deuxième fonction, c'est peut-être antinomique à ce que je viens de vous dire, c'est de réguler les échanges gazeux entre le contenu de la feuille et le milieu ambiant. Et ces échanges se font par une multitude de petits orifices bordés par deux cellules qu'on appelle les stomates. Et lorsque ces cellules se gonflent ou au contraire se relâchent, l'orifice s'ouvre ou se ferme. C'est-à-dire que la feuille peut contrôler les échanges gazeux et en particulier les mouvements d'eau entre la feuille d'une part et le milieu ambiant d'autre part. Et bien sûr, va de ce fait contrôler l'import de gaz carbonique nécessaire à la synthèse du saccharose. Alors, ce qu'il faut retenir chez une feuille, c'est que c'est un capteur solaire. Et ce qui frappe, comme tous les capteurs solaires, c'est qu'ils occupent le maximum de surface dans le minimum de volume. Et nous verrons cette notion à tous les niveaux dans un instant. Cliché suivant. Merci. Une petite mise au point. Voilà. Je suis désolé parce que ce sont des diapositives de second couteau. Hier, en venant à Grenoble, on m'a volé mes diapositives que je vous avais réservées. Je suis désolé. Donc, je suis un petit peu perturbé en voyant ces diapositives. Mais elles sont quand même belles. Alors, voilà une cellule chlorophyllienne que je vous ai montrée tout à l'heure. Vous voyez, on augmente dans le grossissement. Voilà une cellule chlorophyllienne et vous voyez qu'elles sont lâchement liées les unes aux autres. Ici, voilà un point de contact entre cette cellule et cette cellule, un autre point de contact entre cette cellule et cette cellule, un autre point de contact entre celle-ci et celle-là. Alors, toutes ces cellules chlorophylliennes, comme toutes les cellules végétales, sont bordées par une paroi. Cette paroi est formée de cellulose, hein, comme le coton, si vous voulez, c'est la matière du coton. Et cette paroi va conférer à la cellule une certaine rigidité. On la voit ici en grisé. Je la délimite avec mon pointeur. Et à l'intérieur de la cellule, vous avez une énorme cavité remplie d'eau. Là, voilà la cavité que je vous limite, bordée par une membrane et qui repousse le tout à la périphérie. Et en particulier, vous avez entre la membrane cellulaire plaquée contre la paroi cellulosique et la membrane de la cavité, vous avez ce que l'on appelle le cytoplasme, je vais y revenir dans un instant, dans lequel vous avez des organites. Et parmi ces organites, on repère le noyau, on repère ici une mitochondrie, qui est le siège de la respiration. Les cellules végétales, comme les cellules animales, respirent. Ce sont les mitochondries qui vont fournir l'énergie nécessaire au fonctionnement du cytoplasme. Et vous avez cet organite qui est très spécial, qui est présent uniquement dans le règne végétal et qui, dans ce type de cellule, porte le nom de chloroplaste. Et c'est lui qui est le siège de la captation de l'énergie lumineuse et de la fixation, de la réduction moléculaire du gaz carbonique. C'est également le siège, nous allons le voir dans un instant, de la réduction des nitrates et des sulfates pour la synthèse des aminoacides. Donc vous voyez, cet organite joue un rôle clé dans les grandes voies de synthèse de la cellule végétale. Alors retenez, pour vous fixer les idées, que dans un gramme de feuille, c'est-à-dire qui représente une surface de 10 cm carrés environ, vous avez à peu près 1 million de cellules. Et dans ces cellules, toujours dans un gramme de feuille, vous avez 300 millions de chloroplastes, c'est-à-dire que par cellule, vous avez à peu près 300 chloroplastes. Et ces chloroplastes occupent un volume de 25 microlitres. Donc dans un gramme, tous les chloroplastes présents dans une feuille occupent un tout petit volume de 25 microlitres, qui est celui d'une tête d'épingle. Et on retrouve le volume d'une tête d'épingle. Et on retrouve ici la notion de capteur solaire. Vous voyez, cette énorme cavité centrale oblige les chloroplastes à ne pas se superposer de manière à ce qu'ils ne se gênent pas pour capter la lumière. On retrouve à ce niveau-là la notion de capteur solaire. Et les cellules animales sont dépourvues de cette énorme cavité qui se trouve à l'intérieur. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà un plus fort grossissement, une partie de ces cellules chlorophylliennes. Vous repérez ici une partie de la paroi pectocellulosique. Ici, la véritable membrane cellulaire de la cellule chlorophyllienne. C'est elle qui va catalyser tous les échanges entre le milieu interne et le milieu externe. On la voit ici. C'est un peu comme la chambre à air plaquée contre le pneu. Vous avez ici l'énorme cavité centrale avec sa membrane limitante, cavité centrale remplie d'eau au passage. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Et vous avez entre cette membrane-là et la membrane cellulaire, ce que l'on appelle le cytoplasme, avec tous les organites dont chacun joue une fonction particulière. Le chloroplaste joue un rôle clé dans la photosynthèse, dans la photosynthèse et notamment celle du saccharose. La mitochondrie joue un rôle clé dans la respiration. Ici, il s'agit d'un autre organite. Le noyau n'est pas visible ici. Donc, repérez bien, le cytoplasme, c'est là où se déroulent toutes les réactions dans la cellule vivante. Il est coincé entre la membrane cellulaire et la membrane qui entoure la vacuole à ce niveau. Diapositive suivante. Voilà un plus fort grossissement, la structure d'un chloroplaste. Vous voyez, on augmente le grossissement au fur et à mesure que cet exposé avance. Et un chloroplaste est formé de trois parties distinctes. Alors, il baigne dans le cytoplasme, que je viens de vous montrer tout à l'heure. Il y en a 300 par cellule. Ça, il s'agit de la coupe d'un chloroplaste isolé. Ce chloroplaste est limité par une double membrane, ici, que l'on voit très bien, que l'on appelle l'enveloppe. Et cette membrane va catalyser les échanges entre le cytoplasme de la cellule et le contenu du chloroplaste, où se déroule une multitude de synthèses. C'est vraiment un organisme phénoménal de ce point de vue. À l'intérieur, vous avez le capteur solaire. C'est ce que l'on appelle les thylakoïdes. Et vous voyez que ce capteur solaire occupe une surface considérable. Il s'agit de membranes souvent pilées les unes dans les autres ou au contraire allongées. Je ne rentre pas dans les détails, il me faudrait plusieurs centaines d'heures pour vous expliquer tout cela. Et le tout est enchâssé dans une substance très riche en protéines, 0,8 g par millilitre, à la consistance de la gelée de groseille. C'est ce que l'on appelle le stroma. Et ces trois parties travaillent de façon synchrone pour réaliser de nombreuses synthèses. Alors, lorsqu'ils sont exposés à la lumière, les chloroplastes importent, je vous l'ai dit, des molécules très simples. Le gaz carbonique qui vient de l'air, les anions sulfate et nitrite qui viennent du sol, et l'eau, bien sûr, et en retour, ils fabriquent des produits finis. Parmi ces produits finis, on rencontre tous les acides aminés, c'est assez extraordinaire, c'est véritablement un tour de force, et le précurseur, ce n'est pas tout à fait le saccharose, c'est une molécule à trois carbones qu'on appelle un triose. Et cette molécule à trois carbones va sortir du chloroplaste et dans le cytoplaste va être le précurseur du saccharose qui renferme 12 carbones. Donc il faudra ces quatre molécules à trois carbones pour former le saccharose. Le saccharose n'est pas synthétisé dans les chloroplastes, il est fabriqué à l'extérieur de ces derniers, dans le cytoplasme de la cellule, mais le gros de la synthèse s'effectue quand même dans les chloroplastes qui vont synthétiser en permanence ces trioses. Alors, comment les choses marchent-elles? Quelle est la fonction jouée par les thylakoïdes? Eh bien, lorsqu'on les illumine, vous avez un courant d'électrons qui se fait. Ce courant d'électrons naît de l'eau. L'eau donne ses électrons avec un sous-produit qui est l'oxygène et qui se dégage et qui a été parfaitement bien travaillé par le professeur Pierre Joliot ici en France. Et ce courant d'électrons s'abouche sur un accepteur d'électrons qui est un accepteur d'électricité, si vous voulez, en parlant vulgairement. C'est un accepteur d'électrons, je ne vais pas vous donner son nom, c'est un nom assez barbare. Donc quand on les illumine, un courant d'électrons est enclenché, il naît de l'eau et il arrive sur un accepteur qui se charge en électrons. Et quand ce courant fonctionne, de l'énergie est récupérée. Donc quand ce courant fonctionne, deux accumulateurs se chargent, un accumulateur d'électrons et un accumulateur d'énergie. Toutes les synthèses qui se déroulent dans le stroma vont consommer, bien sûr, ces deux accumulateurs. Vous comprenez implicitement que pour assembler des atomes les uns derrière les autres pour former des molécules, il faudra des électrons. Donc l'accumulateur d'électrons va le donner. De même, il faudra de l'énergie, donc l'accumulateur d'énergie va le donner. Donc là, il y a un synchronisme parfait entre le fonctionnement des thylakoïdes qui vont recharger ces accumulateurs et le stroma des chloroplastes qui va les consommer pour toutes les synthèses. Et ensuite, les produits finis sont évacués de la cellule vers l'extérieur, du chloroplaste vers l'extérieur. Diapositive suivante. Alors, comment le saccharose va-t-il être véhiculé de cellule à cellule pour rejoindre les vaisseaux conducteurs? Quel est le mouvement qui va provoquer ce déplacement de la molécule de sucre d'une cellule à l'autre? Alors, je vous ai dit que ces cellules étaient lâchement liées les unes avec les autres à des points de contact. Eh bien, à très fort grossissement, on s'aperçoit qu'il existe entre les deux cellules des petits canaux de 5 à 10 nanomètres, c'est très petit, qui mettent en communication une cellule avec la suivante. Ici, il s'agit de la paroi des deux cellules, paroi plaquée l'une sur l'autre. Voilà une cellule avec sa membrane cellulaire décollée ici de la paroi. Voilà l'autre cellule avec sa membrane cellulaire décollée de la paroi. Et les membranes cellulaires sont en continuité avec la membrane cellulaire voisine, ici et ici. Et c'est par ces petits canaux que le saccharose va diffuser de cellule à cellule pour rejoindre les vaisseaux conducteurs. Mais quel est le moteur de cette diffusion? Eh bien, le moteur, on va le voir dans le cliché suivant. Voilà une coupe d'une très fine nervure. Retenez au passage que ces cellules ont 50 microns de diamètre. Donc vous voyez que les nervures sont très petites. Alors voilà les cellules qui conduisent ici la sève élaborée. Et voilà ici les cellules qui conduisent la sève brute venant du sol. Alors comment les choses se passent? Eh bien, je vous ai dit que les cellules qui conduisent la sève élaborée sont vivantes. elles ont mis en place une véritable pompe à saccharose. Je ne rentre pas dans les détails, retenez simplement qu'elles pompent activement, contre un gradient de concentration, le saccharose. Et le saccharose, produit dans chacune de ces cellules chlorophylliennes, va diffuser par les petits canalicules que je vous ai montrés tout à l'heure, d'une cellule à l'autre, attiré par cette pompe. Et vous allez avoir dans la lumière de ces vaisseaux qui conduisent la sève élaborée des concentrations impressionnantes de saccharose, parce qu'au risque de me répéter, ces cellules le pompent activement contre un gradient de concentration. Donc elles consomment en permanence de l'énergie pour assurer ce pompage. Alors qu'est-ce qui va se produire? C'est un simple phénomène physique. De l'eau va quitter les vaisseaux qui remontent l'eau du sol, par un simple phénomène d'osmose, va rejoindre ces vaisseaux sursaturés en saccharose. Le volume va augmenter, ce qui va entraîner le déplacement de cette sève élaborée dans tous les organes de la plante. Alors, il y a une chose que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure au sujet de ces membranes qui se trouvent dans les chloroplastes que l'on voit ici et qui sont impliquées dans la captation de l'énergie lumineuse. Je vous ai dit, quand on les illumine, un courant d'électrons se passe dans ces membranes thylakoïdiennes. Eh bien, ces membranes occupent une surface considérable. Dans un gramme de feuille, elles occupent une surface de 10 mètres carrés. Or, je vous ai dit que les chloroplastes, leur volume total était de 25 microlitres dans un gramme de feuille. Ce qui veut dire que vous enfermez dans un volume grand comme une tête d'épingle une surface couvrant un carré de 10 mètres carrés. C'est comme si, à votre échelle, que vous enfermiez dans une petite armoire une surface de drap couvrant un carré de 20 km de côté. C'est un réel tour de force qu'effectue la nature pour empiler avec cette finesse impressionnante autant de membranes dans cet organite qui est le chloroplaste. Donc n'oubliez pas, le saccharose fabriqué dans chacune de ces cellules va diffuser par les petits canalicules, les petits points, les petites communications, aspirer vers les vaisseaux conducteurs. Et tout ceci va être conduit au reste de la plante qui va le consommer avidement. Est-ce que je peux avoir le cliché suivant? Alors, qu'est-ce qui se passe dans les tissus qui consomment le saccharose? Au niveau des racines, des tubercules, tubercules de pommes de terre, la betterave, etc., tous ces organes puits qui le consomment. Eh bien, le saccharose va servir dans un premier temps à alimenter la respiration pour produire l'énergie à la cellule. Vous voyez, le saccharose joue un rôle clé. Il va être utilisé pour les synthèses de ces cellules, il s'en déroule de nombreuses, y compris celles des acides aminés, les protéines, etc. Donc il faut du carbone, ce carbone dérive du saccharose. Mais il y a une chose que fait la cellule tout de suite. Elle pense à son garde-manger. Elle va stocker immédiatement du saccharose dans les amyloplastes. Je vous l'ai dit, dans chaque cellule végétale, vous avez des plastes, mais suivant le territoire où on est, ils ont des fonctions particulières. Dans les feuilles, ce sont les chloroplastes, dans les racines, ce sont les amyloplastes, par exemple. Eh bien, le plaste va convertir le saccharose qui pénètre dans ces cellules en amidon, qui est un polymère de glucose. Donc, c'est une macromolécule qui développe aucune pression osmotique, donc il n'y aura aucun mouvement d'eau qui va se produire, et ce qui fait que la cellule qui est inondée de saccharose de jour va stocker des masses impressionnantes d'amidon dans ses amyloplastes. Et je vous montre ce cliché. Il s'agit d'une coupe réalisée dans une inflorescence de chou-fleur, voyez-vous. Ici, vous avez quelque part la paroi. Regardez la paroi, un petit bout de paroi ici. Toutes les cellules végétales ont une paroi. La membrane cellulaire. Ici, l'énorme cavité centrale remplie d'eau, la vacuole avec sa membrane. Et là, vous avez le cytoplasme. Et regardez dans le cytoplasme, les plastes, avec les mitochondries, on les repère tout de suite ici, qui assurent la respiration, puis d'autres organites. Mais voyez-vous, dans les plastes, regardez ce qu'il y a, d'énormes grains réfringents, c'est l'amidon. Il faut que la cellule pense aux besoins nocturnes. Parce que lorsque la nuit arrive, eh bien, ces cellules doivent se suffire à elles-mêmes pour poursuivent leur métabolisme et leur respiration. Et là, elles empruntent dans leur garde-manger. Alors, pour vous montrer tout cela, je vais vous illustrer cela. Les feuilles font la même chose. J'ai oublié de vous dire que les cellules foliaires, la nuit, sont complètement hétérotrophes. Elles doivent vivre sur leurs réserves. Donc, de même, dans les chloroplastes, à la fin de la journée, le chloroplaste commence à synthétiser de l'amidon. Il y a une régulation fine, bien sûr. On fabrique du saccharose, mais en fin de journée, il faut que la cellule chlorophyllienne pense à son garde-manger. Et ceci est parfaitement illustré sur ce transparent qui est assez... Alors là, je suis perdu. Bon.
Si, on va y arriver. Comment on inverse ?
Bon, on va prendre. Ah, ben c'est très bien. C'est pas très joli, mais on voit très bien les choses. La mise au point se fait probablement ici, peut-être. Voilà, hein, c'est ça. C'est là ?
Là, un peu. C'est
bon. Bon, voilà deux cellules chlorophylliennes. Vous voyez, elles sont lâchement les unes avec les autres. On retrouve cette notion. Ça, la coupe a été effectuée le matin. Et vous voyez, dans les chloroplastes, il n'y a pas ces gros grains réfringents qui sont les grains d'amidon. Par contre, en fin de journée, la même coupe, regardez, est surchargée en amidon. C'est-à-dire que la cellule chlorophyllienne a pensé à charger son garde-manger pour la nuit. Et bien sûr, la nuit, l'amidon sera consommé pour le métabolisme de la cellule chlorophyllienne. Donc vous voyez, il y a quand même, de ce point de vue, quelque chose qui est profondément différent du règne animal. Alors, nous allons voir à présent que les plantes, finalement, doivent se défendre bec et ongles contre les attaques des prédateurs. Et quand je dis prédateurs, je dis les mammifères, mais également les pathogènes. Je vous l'ai dit, la feuille occupe le maximum de surface dans le minimum de volume. Elles attirent, par conséquent, la convoitise des prédateurs, c'est évident. Les mammifères, les insectes, les oiseaux, elles sont agressées en permanence. De même, elles reçoivent une multitude de spores provenant de pathogènes divers, bactéries, champignons filamenteux, mais également les virus qui les attaquent. Donc, elles doivent se défendre. Quelles sont les stratégies qu'elles ont mises au point pour répondre à ces attaques ? Et vous verrez qu'elles sont particulièrement intelligentes. Ce sont des stratégies lourdes, vous le verrez, mais diablement efficace. La première stratégie, les plantes sont passées maîtres dans l'art de fabriquer les poisons les plus redoutables. Ou bien des molécules qui ont un goût insupportable. Et dans la diapositive suivante, vous allez reconnaître tout de suite certaines de ces molécules qui sont des poisons. Ah, j'interromps mon exposé à ce niveau-là. Je suis désolé. Je vous l'ai dit, ce ne sont pas mes diapositives. Donc, il a fallu que je fasse un exposé très rapidement à partir de diapositives second couteau. Je change un petit peu, mais je reviendrai au poison dans un instant. Cette diapositive est très intéressante parce qu'elle nous montre une coupe de feuilles avec l'épiderme. J'ai oublié de vous dire cela. L'épiderme supérieur, et vous avez ces deux cellules qu'on appelle les stomates qui peuvent ouvrir ou fermer ces petits orifices. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Lorsque la vacuole est gonflée, c'est-à-dire lorsqu'il y a un import de petites molécules, de l'eau rentre par osmose, l'estomac s'ouvre et laisse passer les gaz. En revanche, lorsque la vacuole, cet énorme espace, perd des molécules, de l'eau va ressortir par diffusion, la cellule se relâche et l'estomac se ferme. Alors, ce qui est assez important, c'est que dans cette chambre, compris entre les deux épidermes, vous devez avoir en permanence une atmosphère sursaturée en vapeur d'eau, de manière à ce qu'il y ait un film liquide d'eau à la surface de ces cellules. Et c'est dans ce film liquide que va se dissoudre le CO2, et c'est sous cette forme qu'il va pénétrer dans les cellules, le CO2, qui est le précurseur du saccharose, je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, bien sûr, comme cette chambre est sursaturée en vapeur d'eau, la plante va transpirer d'énormes quantités d'eau par l'estomac, par ses petits orifices. Par exemple, un hectare de maïs vaporise près de 60 mètres cubes d'eau par jour. Un tilleul, en été, peut vaporiser jusqu'à une tonne d'eau. Et cette vaporisation est nécessaire pour entretenir en permanence une atmosphère sursaturée en vapeur d'eau dans le contenu des feuilles, dans cette enceinte délimitée par les deux épidermes. Mais là, la plante se trouve souvent confrontée à des stress hydriques importants. Imaginez un seul instant que l'eau vienne à manquer dans le sol. Si l'estomac restait ouvert, les colonnes d'eau se romperaient par embolie, car elle serait soumise à des tensions considérables, comme il n'y a plus d'eau dans le sol, et l'évaporation se poursuivant, par un phénomène de cavitation, elle se romprait. Intercalation de bulles d'air, et je peux vous dire que c'est extraordinairement nocif pour la plante. Il faut éviter cela. Donc il y a un signal de nature hormonale qui remonte du sol, ce sont les racines qui dictent aux feuilles de fermer l'estomac. C'est une hormone qu'on appelle l'acide abscisique qui est synthétisée dans les racines lorsque l'eau vient à manquer dans le sol. Et l'estomac se ferme, ce qui fait que la plante, comme cela, résiste pendant un certain temps aux longues périodes de sécheresse. Mais si les estomacs sont fermés, le gaz carbonique ne peut plus pénétrer et la photosynthèse s'arrête. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, Dieu merci, à chaque instant, chaque cellule végétale a pris grand soin de stocker des masses impressionnantes d'amidon dans ses cellules. Je reviens au poison. Diapositive suivante. Voilà la liste de poisons que vous connaissez. Le cannabinol, c'est une drogue qui confère cette euphorie passagère lorsqu'on consomme du chanvre indien. L'opium, ce latex qui exude du pavot lorsqu'on l'excise et duquel on tire la morphine, la codéine, ce sont des analgésiques absolument fabuleux. La colchicine, la strychnine, qui est un poison extrait de la noix vomique, la quinine, la caféine, la théobromine, la théophylline, du café, du thé, du cola, etc. L'aconitine, l'atropine, les pyrétrines, qui sont des insecticides qu'on isole de certains chrysanthèmes, les rotenones, le taxol, qui est un inhibiteur, le salicylate, qui donnera par acétylation l'aspirine. Mais les plantes ont fabriqué ces molécules non pas pour faire plaisir à l'homme, mais pour se défendre contre les prédateurs. Il est clair qu'un prédateur qui dévore, attaque la noix vomique, risque d'avoir de gros problèmes parce qu'il va ingérer la strychnine. Donc c'est de cette manière que la plante réagit contre les attaques. Malheureusement, nous le verrons tout à l'heure, c'est que l'homme les a sélectionnées. Et les a sélectionnées parce qu'il n'y a pas de poison. Donc, elles se trouvent souvent démunies contre les diverses attaques liées, infligées par les agents biologiques. Et c'est la raison pour laquelle il faut malheureusement traiter ces cultures et les protéger, contrairement aux herbes folles qui, elles, ont toutes les armes pour répondre aux attaques contre les pathogènes et les prédateurs. La deuxième arme qu'utilisent les plantes pour se prémunir contre les agents pathogènes, c'est un peu l'histoire du pistolet à grenaille. Je tire à vue sur tout ce qui bouge. dans la membrane cellulaire de très nombreuses cellules végétales, et en particulier dans les cellules épidermiques, les frontières limitantes, vous avez une multitude de récepteurs. Et ces récepteurs captent des signaux chimiques émis par les pathogènes, virus, champignons filamenteux, bactéries, etc. Lorsqu'un de ces récepteurs se trouve ébranlé, il transmet du côté interne de la cellule un message. Ce message, par toute une cascade de transduction de ce signal, va être transmis à une oxydase qui se trouve sur la membrane cellulaire. Cette oxydase avale des électrons du côté de la face interne de la membrane cellulaire et transmet ces électrons à l'oxygène moléculaire sur la face externe de la membrane cellulaire, avec production de radicaux superoxydes, qui sont des agents phytotoxiques puissants et qui s'attaquent aux pathogènes. Ces radicaux superoxydes, en présence des protons, donnent l'eau oxygénée et l'ensemble va entraîner des nécroses localisées dans la feuille, enserrant ainsi le pathogène dans un champ de nécrose. C'est la politique de la terre brûlée. Mais le signal va beaucoup plus loin, l'eau oxygénée va renseigner des cellules plus éloignées des nécroses, et ces cellules-là vont répondre en épaississant le paroi pour empêcher l'invasion ultérieure du pathogène. Donc vous voyez, les deux stratégies qu'utilise la plante pour se prémunir contre les agressions, c'est de fabriquer des poisons et d'autre part de tirer à vue sur tout ce qui bouge grâce à cette oxydase présente sur le plasmalème une fois qu'elle a été renseignée par des récepteurs particuliers. Alors, pour la petite histoire, on rencontre également cette oxydase dans les polynucléaires neutrophiles, dans certains globules blancs, dans les macrophages. On retrouve la même oxydase qui produit en abondance des radicaux superoxydes pour attaquer la bactérie et ensuite mieux la phagocyter. Alors, je terminerai mon exposé sur l'utilisation des herbicides. Je vous l'ai dit à l'instant, les plantes sont mal armées, et les plantes cultivées, je veux dire, sont mal armées contre les attaques par les pathogènes. Parce que l'homme a sélectionné ces plantes pour produire de gros tubercules, des graines, etc., des plantes qui présentent un goût agréable et qui sont dépourvues de poisons. Il faut donc, malheureusement, et c'est un mal nécessaire, je pèse tous mes mots, traiter les cultures. Alors, le cliché suivant nous montre, illustre parfaitement mes propos. Il s'agit d'un champ de blé, c'est un blé d'hiver qui a été ensemencé en automne, mais ce champ a été partagé en deux parties. Une partie qui a été traitée avec des sulfonylurés, je vais revenir dans un instant, et l'autre partie qui n'a pas été traitée. Alors, vous voyez immédiatement le résultat. Dans le premier cas, il y a quelques coquelicots. Dans ce cas particulier, il y a une invasion de coquelicots. Bon, dans le second cas, la culture est fichue. Cliché suivant. Alors, quelles sont les qualités que doivent posséder les herbicides pour être homologués ? Ceci est d'une importance fondamentale. La première qualité, c'est qu'il doit toucher une enzyme spécifique du règne végétal. La deuxième qualité, c'est qu'il doit présenter le minimum d'impact sur l'environnement. Malheureusement, le risque zéro n'existe pas. La troisième qualité, il doit être biodégradable. Ceci est à mes yeux important, qu'il n'y ait pas de rémanence dans le sol. Et vous verrez que certains herbicides sont très toxiques, sont très pernicieux de ce point de vue. Et enfin, il doit présenter une excellente systémie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Quand on le dépose sur les feuilles, on doit le retrouver à la pointe des racines. Quand il est absorbé par les racines, il doit monter jusqu'aux feuilles. C'est-à-dire qu'il doit être véhiculé par les vaisseaux conducteurs, qu'ils conduisent la sève brute ou la sève élaborée. Et ce cliché vous montre les deux seuls herbicides au monde qui présentent ces qualités. C'est tout d'abord le fameux Roundup. Je suis sûr que si vous avez un jardinier dans votre famille ou vous-même, que vous avez un petit jardin, vous connaissez cet herbicide. D'ailleurs, il est utilisé, il est accepté dans les cultures biologiques. Alors, cet herbicide, vous pouvez en avaler 4 grammes, vous auriez juste qu'une petite colique. Vous le déposez sur les feuilles et vous le retrouvez à la pointe des racines. Et quel est le mode d'action de cet herbicide? Eh bien, il interrompt les voies de synthèse des acides aminés chez les plantes. La phénylalanine, le tryptophane et la tyrosine. 3 acides aminés essentiels pour l'homme, mais qui sont impliqués dans la synthèse des protéines. Or, cet herbicide bloque cette voie de synthèse et par conséquent, la plante ne pourra plus synthétiser ses protéines. Alors, il est intéressant parce qu'il circule dans tous les territoires de la plante et il va donc ainsi gripper toutes ses voies de synthèse et tuer la plante. Le deuxième herbicide, ce sont des sulfonylurées qui agissent à 4 grammes par hectare. C'était le champ que je vous ai montré tout à l'heure. Il a été traité par ces sulfonylurées à 4 grammes par hectare. Là aussi, vous pouvez en avaler 4 grammes, vous auriez juste qu'une petite colique, c'est tout ce qui vous arriverait. Ces deux herbicides sont parfaitement détruits par la flore du sol, très rapidement d'ailleurs. Alors que font les sulfonylurées? Eux, ils s'attaquent à une autre voie de synthèse, c'est la synthèse des aminoacides branchés, valine, leucine, isoleucine. Je ne vous en dirai pas plus, car l'heure s'avance. Je peux vous dire simplement que d'autres herbicides sont malheureusement à l'heure actuelle encore employés. Et à mon sens, il faudrait les retirer de la circulation parce qu'ils ne rentrent pas dans les 4 critères que je vous ai définis tout à l'heure. Et en particulier, des herbicides qui ont un impact redoutable sur l'environnement, c'est le cas du paraquat, je ne rentre pas dans les détails. D'autres herbicides contaminent nos nappes phréatiques, il faut les retirer. C'est le cas de l'atrazine. Malheureusement, on continue de les utiliser, ce qui est un scandale permanent. Par contre, ces deux herbicides-là, je pense qu'il n'y a pas de danger. Alors la question est de savoir, est-ce qu'on pourra, un jour ou l'autre, s'affranchir des herbicides? Eh bien, pour moi, la réponse, à l'instant T, est non. Mais je ne garantis pas que dans les 3 prochaines décennies, on arrivera effectivement à s'affranchir des herbicides. Ne me posez pas de questions à l'heure actuelle, je n'ai pas encore les moyens de répondre. Je suis très honnête de ce point de vue. Mais je sais une chose, si du jour au lendemain, on devait supprimer, interdire les herbicides, je ne donnerais pas cher au destin de l'humanité. Alors, je voudrais terminer mon exposé par une très belle image. Il s'agit d'une des plus belles orchidées qui pousse en Europe, et en Europe du Sud. C'est le sabot de Vénus, et en particulier dans le Vercors. Alors, si un jour vous voyez cette orchidée, je vous donne un conseil. Surtout, ne la cueillez pas. C'est une plante qui est en voie de disparition. Regardez-la, régalez-vous de ce point de vue, elle est tellement belle. Photographiez-la, mais ne l'accueillez pas. Et puis surtout, il faut avoir une petite pensée émue. On regarde la fleur, elle est belle, et on oublie la feuille. C'est la feuille qui va fournir le gros travail, finalement. C'est elle qui va débiter le saccharose nécessaire au développement de la fleur. Donc pensez également à la feuille qui est à côté. Et je voudrais terminer mon exposé en vous disant une chose. Je vous invite à flâner dans les prairies alpines à la fin du printemps. C'est beau à vous couper le souffle Et il s'agit là d'un remède divin, bien supérieur à l'opium, pour chasser les angoisses inhérentes à la vie trépidante que nous menons tous. Je vous remercie pour votre attention. Désolé, j'étais pris en dépourvu avec mes diapositives. J'étais obligé pratiquement de faire cet exposé au pied levé avec quelques diapositives qui me restaient dans mon sac. J'aurais bien voulu vous présenter les autres. Je suis désolé.
Alors, déjà une question là. Ouais, elle ne manquera pas. Allez-y. Marche pas ? Qu'est-ce qui se passe ? Peut-être c'est le branchement qui est pas. Attendez, changez de micro peut-être. Celui-ci marche.
Autre caractéristique indispensable aux bons herbicides. Donc, il y en a trois que j'ai retenues et avec lesquelles je suis parfaitement d'accord, c'est-à-dire toucher une enzyme spécifique du règne végétal, un risque minimum sur l'environnement et une durée de vie la plus courte possible au niveau du sol, voire de l'eau, ce qui est très important également. Par contre, vous introduisez un autre facteur qui est l'excellente systémie et qui n'est absolument pas indispensable pour obtenir un très bon herbicide. Vous pouvez très bien obtenir un excellent résultat dans la mesure où votre herbicide aura une systémie suffisante pour détruire la partie foliaire. Une fois que vous avez bloqué les mécanismes de photosynthèse, vous n'avez absolument pas besoin d'avoir un herbicide qui va jusqu'aux racines pour obtenir la destruction de la plante.
Bien sûr, bien sûr. C'est vrai. Alors, ce genre d'herbicide qui présente les trois autres n'existe pas encore. Donc, ma réponse sera rapide. Par contre, on en connaît. C'est par exemple le paraquat. Oui, ils ne valent pas les sulfonylurées. Par exemple, le paraquat pénètre dans les feuilles, il n'a pas besoin d'être systémique, et il détourne les électrons de la chaîne de transfert d'électrons qui se déroule dans les thylakoïdes à la lumière, engendrant des radicaux libres. Bien sûr, il existe une multitude d'herbicides, mais ils n'ont pas les qualités des sulfonylurées ou du glyphosate. Et bien souvent même, vous avez des détournements. Il ne faut quand même pas oublier, par exemple, que si vous touchez uniquement les voies de synthèse des aminoacides dans les feuilles, eh bien, vous allez avoir les racines qui vont répondre, car elles sont capables de synthétiser les aminoacides. D'autre part, on n'a pas découvert encore un herbicide correct touchant le métabolisme du saccharose, par exemple. Le jour où on pourra avoir un herbicide de ce style. Par exemple, les atrazines rentrent parfaitement dans la feuille, interrompent la chaîne de transfert d'électrons, mais malheureusement, les atrazines sont peu biodégradables et contaminent nos... Nous n'avons pas un herbicide. Si vous en avez un, vous me le dites. Voilà.
Vous en avez un ? D'accord.
Mais on en parlera après.
On va en parler après. D'accord.
Oui, mais je sais qu'il y en a plein. C'est vrai. C'est vrai, mais ils n'ont pas la qualité des sulfonylurées.
Votre début de controverse.
Mais je ne veux pas vous inonder avec une liste d'herbicides diaboliques.
Votre début de controverse montre à quel point le malheureux comme moi, qui n'est ni chimiste, ni biologiste, ni rien, se trouve absolument contraint de faire des actes de foi.
Oui,
et ça, c'est dramatique pour
mais
nous.
Mais ce n'est pas une controverse.
Bon, nous voulons bien vous croire, mais vous comprenez que c'est difficile de rentrer chez nous, puis de dire, bah, celui-là, il est bon, celui-là, il est mauvais, celui-là, le professeur X a dit que ça, c'était bon.
Non, je n'ai pas dit que les autres étaient mauvais.
Vous voyez à quel point c'est difficile pour nous. C'est tout bien ce que je peux dire, ce n'est pas une question, c'est un commentaire, et un peu inquiet quand même.
Je n'ai pas voulu vous embarrasser l'esprit par une liste d'herbicides. C'est vrai que la liste est très longue, c'est vrai qu'il y a des herbicides très bons, mais j'ai cité les deux meilleurs à mes yeux. Voilà, c'est tout. Mais je n'ai pas voulu rentrer dans ces détails.
Monsieur.
J'aimerais savoir comment se fait-il que ce qu'on appelle les herbicides atteignent certaines plantes et pas les autres, pas celles qu'on veut apparemment protéger. Qu'est-ce qui fait que certaines plantes sont sensibles et pas d'autres ?
Oui, alors là, il y a différentes réponses. La première, c'est au niveau de la structure des enzymes qui sont touchées. Il y a des petites différences d'une plante à l'autre. D'accord ? La deuxième possibilité, alors j'ai des exemples, j'en ai des dizaines à mes yeux. La deuxième possibilité, ce sont les mécanismes qui président à la dégradation de l'herbicide. Par exemple, vous avez des plantes qui mettent en route des systèmes enzymatiques capables de dégrader rapidement l'herbicide. D'autres, en revanche, ne peuvent pas les mettre en route. Donc, vous voyez, c'est tout ça qui peut expliquer la différence d'une plante à l'autre. Mais maintenant, bon, il y a d'autres exemples, mais maintenant, les agriculteurs utilisent de plus en plus des sojas transgéniques ou des maïs transgéniques résistants à un herbicide donné, en injectant, si vous voulez, en incorporant un gène qui code pour une enzyme capable de dégrader l'herbicide. C'est la stratégie qui est de plus en plus utilisée. On peut discuter des heures entières à ce niveau-là, mais bon, c'est une des stratégies. Mais votre question entraînerait de ma part une dizaine d'heures d'explication.
Attendez, auparavant, monsieur.
Je sais pas.
Il marche toujours pas, celui-ci ? Si.
Oui, voilà. Bonjour. Je vous remercie pour votre exposé et je me demande si au mois de décembre, vous ne pourriez pas utiliser un des créneaux prévus pour venir avec vos diapositives premier cru.
Ah, c'est une bonne idée, hein.
Si vous voulez.
Vous avez dit que si les pesticides étaient interdits, vous ne donniez pas cher de l'avenir de l'humanité. Est-ce que vous pouvez développer un peu ce point ?
Je ne suis pas contre l'agriculture biologique, bien au contraire. Hein, surtout, ne déformez pas mes pensées. Bien, à l'heure actuelle, les cultures, nos cultures, sont très vastes. Ce sont des champs, souvent, d'un seul tenant, 300 hectares, 200 hectares, etc. Il suffit d'un champignon filamenteux, par exemple, qui, et Dieu sait si, avec les moyens de communication rapides, on introduit des spores à tous les niveaux, il suffirait d'une seule spore d'un champignon filamenteux dangereux pour flanquer par terre tout le champ. De même, si on ne traite pas par les herbicides, très rapidement, les mauvaises herbes, c'est un terrain extraordinairement propice au développement des mauvaises herbes, compte tenu des intrants, des nitrates, etc., compte tenu aussi du fait que les plantes de grande culture se défendent mal contre les agressions, mais c'est un champ ouvert pour la prolifération des mauvaises herbes, etc. Donc les rendements des récoltes s'écrouleraient de façon spectaculaire dans le monde. Or, il ne faut quand même pas oublier que c'est ce qui nourrit l'humanité. Donc très rapidement, on arriverait à une catastrophe sans précédent. Par contre, il ne faut pas être contre à tout prix, mais il faut être très vigilant dans l'utilisation de cette arme chimique. C'est ça que je substitue. C'est pour ça que j'ai privilégié tout à l'heure deux herbicides. Je n'ai pas dit que c'était les meilleurs. Il ne faut pas déformer ma pensée. Mais ces herbicides rentrent dans les quatre critères que j'ai définis tout à l'heure. Mais si on cessait de les utiliser, ça serait vraiment catastrophique. Voilà, si vous voulez que je développe ma pensée, je pourrais aller même plus loin, mais je pense que je vous ai tout dit en disant cela.
Monsieur. Et ça marche pas.
Chemin faisant, vous avez souligné essentiellement les différences entre les règnes animal et végétal,
oui.
Avec l'exception des globules blancs. Oui. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une, qu'il y a des analogies très profondes entre le règne animal et le règne végétal, par exemple la fonction garde-manger, la fonction circulation d'un côté de la sève, de l'autre du sang. Est-ce que ces fonctions se retrouvent dans tout le règne animal? Et d'autre part, est-ce que ces correspondances se retrouvent au point de vue histologique?
Au point de vue
histologique. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, les vaisseaux qui conduisent le sang ont des analogies avec le vaisseau qui conduisent la sève?
Non. Alors là, de ce point de vue, je réponds toujours tout de suite à la dernière partie de votre question. Ma réponse est définitivement non. Ça, c'est clair. Mais il y a de nombreuses analogies, effectivement, entre le règne animal et le règne végétal. Par exemple, la structure, en gros, du génome. On trouve des analogies extrêmement troublantes de ce point de vue. Mais par exemple, vous avez la mitochondrie que l'on rencontre aussi bien dans les cellules animales que dans les cellules végétales. Dans les deux règnes, la fonction est la même, c'est de débiter l'énergie pour le métabolisme de la cellule. Mais au niveau des vaisseaux conducteurs, il est difficile de retrouver cette analogie. Maintenant, pour la notion de garde-manger, c'est vrai que au niveau des mammifères, le foie, au moment du bol alimentaire, le foie va stocker le sucre sous la forme de glycogène. C'est un équivalent de l'amidon. Mais ceci est spécifique du foie. Et c'est ensuite le foie qui va réguler le taux de glucose dans le sang. Il va donc puiser sur ses réserves qu'il a fait. Mais les autres cellules n'ont pas cette histoire de garde-manger. Par exemple, vos cellules neuronales, si le taux de glucose vient à passer de 0,9 à 1 g par litre à 0,6 g par litre, les neurones sont complètement démunis, vous rentrez dans le coma, ils cessent de fonctionner. Donc de ce point de vue, nous n'avons pas redondance entre le règne animal et le règne végétal. Et puis surtout, le règne végétal a une grande différence, grande particularité avec le règne animal, c'est qu'il a tous les organites du règne végétal, les mitochondries, les dictyosomes, le noyau, etc. Mais il a un organite en plus, c'est le plaste. Et c'est le plaste qui sert essentiellement de garde-manger à chaque cellule végétale. Chaque cellule végétale, le jour, stocke de l'amidon, et l'amidon est restitué la nuit pour les besoins respiratoires, pour le métabolisme. Donc il y a des points de convergence, et puis il y a des points de divergence. J'ai cité un point de convergence, c'est cette fameuse oxydase sur le plasmalème, qui est identique dans les deux règnes. Dans un cas, elle est présente dans les globules blancs. Dans l'autre cas, elle est présente dans les frontières limitantes des cellules pour se défendre contre les agressions. Voilà.
Monsieur, madame, et puis une dernière question ici. Oui.
À propos des herbicides, comment mesure-t-on la biodégradabilité des herbicides?
Oh là, il y a différentes techniques. C'est de suivre par... en marquant l'herbicide, c'est de suivre son métabolisme dans le sol. Alors, il y a différentes techniques. Vous utilisez différents types de sols que vous mettez, par exemple, dans d'énormes colonnes. Vous mettez l'herbicide avec toute la flore, les bactéries, etc. Vous mettez l'herbicide en haut, radioactif, et vous suivez sa dégradation, le temps qu'il met pour être dégradé par la flore et la faune du sol. Il y a différentes techniques, ce sont des techniques très lourdes, très rustiques, mais vous savez, c'est assez efficace. Donc c'est essentiellement en prenant des carottes de sol, en administrant l'herbicide au sommet de ces carottes, radioactif, et en suivant sa dégradation dans le sol. D'autre part, l'herbicide tue, c'est vrai, mais il est également dégradé par la plante. La plante se défend. Par exemple, vous avez le glyphosate est rapidement détruit par certaines plantes. Pas par toutes, mais rapidement détruit. Donc c'est tout cet ensemble qui fait qu'un herbicide est bon parce qu'il est bien biodégradable ou mauvais parce qu'il a une rémanence dans le sol. Et les vieux herbicides employés, je ne veux pas vous faire la liste, j'en connais des milliers d'herbicides, je ne veux pas vous inonder de molécules, mon problème n'est pas là. C'est vrai qu'il y a, il y a encore de très bons herbicides, en dehors des sulfonylurées et de ceci, cela, et du glyphosate, c'est vrai. Mais il y a quand même encore de très mauvais herbicides qui sont utilisés à la surface de la planète. Et ça, c'est un scandale permanent. Moi, je ne peux pas l'accepter. Donc, et qui ne sont pas des biodégradables. Il y a une rémanence dans le sol absolument épouvantable.
Madame.
Oui, bonjour.
Enfin, je ne veux pas rentrer dans les
détails. Vous avez dit que les herbicides s'attaquaient à des enzymes spécifiques sur les mauvaises herbes, plus ou moins.
La plupart.
Donc, il y a en même temps des poisons dans les plantes. En fait, elles savent se défendre. Est-ce que plutôt que de prévoir des plantes qui seraient, résistantes à des herbicides, serait-il possible ou envisageable de faire en sorte que les plantes cultivées soient en mesure de se défendre elles-mêmes par rapport aux autres herbes? On sait qu'il y a des plantes qui sont incompatibles. Est-ce qu'il serait possible?
C'est une question très intéressante. Mais honnêtement, je suis toujours prudent dans mes propos et souvent même je suis malhabile. Bien sûr, ça serait l'idéal, par exemple, de pouvoir faire synthétiser à une plante de grain de culture une molécule biologique qui est un phytotoxique ou qui détruirait les champignons phytopathogènes, ça serait l'idéal. Mais en général, ce sont des molécules extrêmement compliquées. Par exemple, le curare est une molécule qui est extraordinairement complexe. Et il faut plus d'une vingtaine de protéines pour réaliser la synthèse de cette molécule. Et c'est pire, ces poisons qui sont synthétisés dans la plante exigent une coopération entre divers organes pour la fabriquer. C'est-à-dire, le fuselage est fait dans la racine, le moteur va être fait dans les feuilles, Et puis le produit fini va s'accumuler dans les pétales, ça arrive. Par exemple, la tropine est synthétisée dans une seule couche de cellules dans la racine, ce qu'on appelle l'endoderme. Et puis, elle s'accumule dans les feuilles, cette molécule. Vous voyez ? Et c'est cela qui est très difficile à maîtriser dans l'état actuel des choses. Il y a encore beaucoup de travail dans ce domaine. Donc, je ne peux pas répondre à votre question, c'est une bonne question. Mais faire synthétiser à une plante, de novo, une molécule aussi compliquée, par exemple, je vous cite le curare ou le salicylate, on n'en est pas encore là.
Dernière question.
Bonjour, monsieur. Oui. Bon, on nous a déjà démontré que les microbes et tous les pathogènes s'adaptaient, ils réagissaient aussi, ils sont vivants aussi. Alors, je m'interloque beaucoup parce que je me dis que bon, la culture bio, comment il va falloir la protéger avec des herbicides?
bien sûr que oui. Ma réponse, on nous dit n'importe quoi à travers les médias. On nous dit n'importe quoi, et je suis sûr que dans la salle, certains m'approuveront. Mais je pèse tous mes mots. Je veux pas recevoir des tomates à la sortie. Hein, je pèse tous mes mots à ce niveau-là. En culture biologique, certains herbicides sont tolérés. Ils sont tolérés. Je vois mal. Ou alors, vous allez payer vos pommes à un prix fou, vos pommes de terre à un prix fou. Et puis finalement, on s'aperçoit que... c'est pour ça que j'ai cité deux herbicides extraordinairement doux pour l'environnement et très peu toxiques. Je suis désolé, il y en a d'autres, mais je ne voulais pas. On est obligé de traiter. On est obligé. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous parle avec mes tripes, là. Mais soyons vigilants, très vigilants, quand on déverse une molécule de ce style à la surface de nos champs. Faisons attention aux conséquences. Là, il faut être vigilant, mais il ne faut pas avoir peur. Vous savez, quand, au moment de l'avènement de l'électricité, on a dit n'importe quoi au début du siècle, n'importe quoi, jusqu'à transformer l'homme avec des maladies de langueur, on a dit n'importe quoi. Le risque zéro n'existe pas. Si un petit bébé met ses deux doigts dans une prise, c'est vrai qu'il risque d'être électrocuté. Mais qui pourrait se passer d'électricité à l'heure actuelle? Je ne pense pas qu'on puisse se passer, dans l'état actuel des choses, je pèse tous mes mots, de pesticides. Mais il faut qu'il soit le plus doux possible.
Je suis tout à fait d'accord avec vous.
Ah ben merci.
Roland Douce, merci beaucoup.
Attendez. J'aurais voulu qu'on me posât une question sur l'eau. Je suis étonné que les gens aient été obnubilés par les pesticides. Mais retenez une chose, s'il y a un message très fort que je veux vous faire passer, c'est que le grand problème de l'agriculture des trois prochaines décennies, ça ne sera pas les pesticides, ça ne sera pas les plantes transgéniques, c'est incontournable, ça sera l'eau. Sachez que dans la Beauce, nos nappes phréatiques ont baissé par endroits de 80 mètres. Moi, quand j'étais gamin, je me baignais dans les petits ruisseaux dans la Beauce. Je pêchais la grenouille dans une multitude de petits ruisseaux. Ces ruisseaux ont totalement disparu. Ça, c'est un problème. Et quand on voit que la sécheresse qui remonte du sud envahit l'Europe, l'Espagne, etc., et qui commence à envahir la France, et qu'on arrose de façon, et je pèse tous mes mots, de façon abusive, en tapant dans nos nappes phréatiques, je dis que là, il faudra faire très attention, et ça sera le problème des trois prochaines décennies. Je vous fais ce pari.